Que le Seigneur soit béni. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu, lire la parole. Nous allons d'abord lire dans Matthieu chapitre 6, un texte qui fait partie du sermon sur la montagne. Ça fait partie des choses qu'on doit apprendre en premier. Vous savez que le sermon sur la montagne, c'est le premier sermon qu'un chrétien découvre quand il lit l'évangile. C'est le plus grand et le plus beau sermon qui n'ait jamais été prononcé, puisqu'il a été prononcé par le Seigneur Jésus lui-même. Dans ce sermon, il y a énormément de choses. Nous en avons entendu une petite partie tout à l'heure à l'introduction de la Sainte-Cène. Mais je voudrais que vous vous arrêtiez, peut-être pendant plusieurs jours, sur ce texte qu'on va lire. Matthieu, chapitre 6, verset 21. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Nous saluons les pasteurs qui sont là ce matin. J'ai vu qu'il y avait donc monsieur et madame Bordeneuve, séparés par monsieur Olé. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous aurons l'occasion de les entendre prochainement. Priez, continuez, je ne dis pas prier pour eux, mais continuez à prier pour eux, pour que Dieu les bénisse et les renouvelle, et que Dieu bénisse également monsieur Galifot et toute cette équipe. Vous avez encore été témoin ce matin du fruit, parce que ça c'est du fruit, lorsque nous voyons des personnes arrachées des ténèbres et qui commencent à découvrir l'évangile, que nous pouvons aider, entourer, tout ça grâce à vos dons, grâce à votre aide financière, matérielle. Nous ne nous gargariserons pas de ces choses, mais quand même c'est bien de souligner que c'est tout le travail d'une église qui fonce dans cette même direction. Merci encore. Matthieu chapitre 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Lisez bien la suite. « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre. » Je le relis. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Je vous demande de méditer sur ce texte dans vos cultes personnels. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38, il y a une des histoires qui est les plus connues, les moins comprises, que je vais essayer de vous expliquer ce matin. Elle a été expliquée de différentes manières, certainement pas assez profondes. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 38, je rappelle pour ceux qui découvrent l'évangile que toutes ces choses ont été écrites afin que nous apprenions à mieux comprendre la pensée du Seigneur. Car toutes ces choses ont été écrites dans ce seul but, devenir de véritables disciples. Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Je répète. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Vous avez observé que depuis plusieurs semaines, depuis que j'ai repris, nous avons abordé de plusieurs manières le repos, car Dieu donne le repos, il donne à tous le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans ce repos parce qu'ils n'ont pas pris le temps de recevoir les instructions, comme ça va être le cas dans les minutes qui vont suivre. Le repos ne nous amène pas à être des paresseux et des feignants. Le repos, lorsqu'il est vécu dans le cœur d'un chrétien, ne peut que l'amener à faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Un chrétien qui est en communion avec Jésus-Christ, un chrétien qui est en paix avec le Saint-Esprit, ne peut que faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. C'est comme un ivrogne qui a bu, ne peut pas faire autrement que d'exprimer son ivresse. C'est pareil. Certains chrétiens essaient tant bien que mal d'entretenir leur salut. Nous en souffrons, nous, en tant que pasteurs, les chrétiens spirituels en souffrent. Je suis souvent capable, hélas. C'est une expérience, c'est comme un jardinier qui est capable de voir une plante qui va crever. Est-ce qu'un jardinier est capable de voir une plante qui va crever? Il le voit. Il le voit vite par rapport aux feuilles qui flétrissent, etc. Alors que un néophyte n'y verra pas grand-chose. Un jardinier le verra bien. Certains chrétiens, donc, n'ont pas de communion avec Dieu. Nous les voyons se flétrir et nous savons qu'ils vont rétrograder. Beaucoup de chrétiens sont juste en communion. Le peu de communion qu'ils ont leur permet d'entretenir le salut, un petit peu comme quelqu'un qui resterait sur un fondement. Imaginez-vous la maison, plus de maison que la fondation. Quelqu'un habite sur un fondement. Vous pouvez quand même vous faire du souci, même s'il est sur le fondement. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à leur propre salut parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de l'œuvre du Seigneur. C'est de notre ressort, c'est de mon ressort, de vous aider à comprendre comment faire l'œuvre du Seigneur. Vous savez que je pose souvent des questions. Est-ce que vous faites l'œuvre du Seigneur? C'est une question individuelle à laquelle vous devez répondre, pas haute voix. Mais vous devez quand même vous positionner et pouvoir dire oui, c'est une question sérieuse. Jusque je m'occupe de mon salut, j'espère que normalement c'est le cas si vous venez, à moins que vous soyez superstitieux et que vous pensiez qu'en allant dans une église, vous êtes spirituel. Mais si vous venez parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous obéissez à Dieu, donc vous vous occupez de votre salut, mais cette question doit être posée, vous occupez-vous de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que c'est important, l'œuvre du Seigneur? C'est pour ça que j'ai pris ce texte. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, car nous ne nous rendons pas compte que nous pouvons penser avoir une certaine lumière, mais Jésus dit que cette lumière peut être ténèbre. Donc c'est important de comprendre, est-ce que je vois bien? Est-ce que je vois bien les choses spirituelles? Parce que bon, voir les choses physiques, il y a pas, à moins que vous soyez aveugle, les choses physiques, vous les voyez. Mais est-ce que je vois bien les choses spirituelles? Alors pour voir les choses spirituelles, il y a une clé, c'est que un des seuls moyens pour voir les choses spirituelles, c'est d'être consacré à Dieu. Si, en tant qu'enfant de Dieu, nous manquons de lumière, c'est que nous manquons de consécration. Mardi, j'ai fait allusion à Samson qui, une fois qu'on lui a coupé les cheveux, vous savez ce que l'ennemi a pu lui faire. Vous rappelez ce qu'on lui a fait? On lui a crevé les yeux. Ce qui était absolument impossible avant cette affaire. Mais le fait que ses cheveux soient coupés, sa consécration a disparu, donc il devenait aveugle. Voilà ce qui se passe, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. C'est vrai que c'est compliqué. Si la lumière qui est en toi est ténèbre. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés. Les chrétiens de la Odyssée étaient aveugles. C'est pas Jésus qui leur dit, mais tu ne sais pas, tu crois que, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Mais pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils faisaient d'une manière générale des œuvres, parce que l'œuvre générale, ce que l'on présente lors d'une assemblée générale, c'est l'œuvre générale. Mais l'œuvre générale, c'est une chose, mais il y a quand même le travail individuel de chacun. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a dit à Pierre, qui s'affolait par rapport à un autre personnage, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire les autres, tu t'en fiches, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire les autres, je m'en occupe. Est-ce que vous croyez que Dieu peut s'occuper des autres? Oui, mais toi, fais bien ce que je te demande. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y aurait beaucoup de textes, mais ce n'est pas le sujet de ma prédication. Par exemple, dans 1 Jean au chapitre 2, lisez-le avec moi, gardez Matthieu, Luc, dans 1 Jean au chapitre 2, c'est un des nombreux textes qui indiquent qu'un chrétien peut être tout à nouveau dans les ténèbres. Écoutez bien. Dans 1 Jean, au chapitre 2, c'est Jean qui parle, cet homme qui connaît très très bien le Seigneur. N'oubliez pas qu'il a été catalogué par le Saint-Esprit comme étant l'homme que Jésus aimait. Il connaît bien Dieu. D'ailleurs, Dieu l'inspire pour qu'on comprenne davantage. 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11. Regardez bien. C'est un texte qui nous parle qu'un chrétien peut être dans les ténèbres. Pourquoi? Lisons-le. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère... » Retenez bien, c'est comme ça, ça ne se discute pas. Un chrétien qui prétend être dans la lumière et qui a de la haine pour son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de la haine, moi j'en ai déjà eu. Et je sais que quand on a de la haine, eh bien on est dans les ténèbres. On peut se gargariser, on peut lire la Bible tant qu'on voudra. Moi j'étais pasteur, je servais Dieu, j'avais de la haine. C'est pas glorieux, mais c'est la vérité. Pendant 6 mois, j'ai eu de la haine contre un collègue parce que ça avait vraiment chauffé. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Une chose est sûre, c'est que le diable fera tout pour qu'il y ait des conflits qui se... Un conflit, c'est pas grave, mais qu'un conflit se termine par des mauvais sentiments. Quelqu'un qui a de la haine, il est dans les ténèbres. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si délibérément vous dites « celui-là il m'énerve, celui-là il me saoule », vous savez les mots qu'on emploie aujourd'hui, « celui-là je ne peux pas le saquer », vous êtes dans les ténèbres. Ça a été écrit non pas pour nous frustrer, ça a été écrit pour nous éclairer. C'est pour ça que Jésus dit « si la lumière qui est en toi est ténèbre ». Alors on pourrait faire toute une prédication et vous verrez que ça serait très intéressant, mais c'est tellement fort qu'il n'y a pas besoin de la faire. Parce que vous avez compris avec un seul exemple. Par exemple, beaucoup de chrétiens, sont accaparés par les plaisirs de la vie. Oui ou non? Les chrétiens qui ne font pas l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont accaparés par les plaisirs de la vie. Jésus en parle, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Beaucoup de chrétiens sont accaparés parce qu'ils sont occupés par leur famille. Alors est-ce que c'est bien de s'occuper de sa famille? Est-ce que c'est bien? Mais certains chrétiens se sont tellement occupés de leur famille et s'occupent tellement de leur famille qu'ils ne font plus l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il est écrit que celui qui ne prend pas soin des siens est les pires qu'un infidèle. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, un chrétien qui ne prend pas soin de sa femme, de son conjoint, de ses enfants, est un chrétien qui va mal. Mais il y a des chrétiens qui ont pris ce verset à la lettre d'une telle façon qu'ils en ont négligé l'œuvre de Dieu. Et il y en a parmi nous. Béni soit Dieu pour nos familles. C'est une grâce d'avoir une famille. Oui ou non? C'est une grâce. Mais franchement, mes frères et sœurs, si la famille, votre foyer que Dieu vous a donné, vous empêche de faire l'œuvre de Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de devenir aveugle. Car je crois que c'est une bénédiction de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et moi je l'entends, ah mais j'ai pas le temps, monsieur Gault, de faire ce que Dieu me demande. Vous comprenez, j'ai une femme, j'ai des gosses. Mais oui, je sais ce que c'est. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. Ce que le Seigneur nous demande, on a le temps de le faire. Vous vous expliquerez avec lui, avec moi vous pouvez vous expliquer tant que vous voudrez, c'est pas important. Que vous tombiez d'accord, que vous arriviez à me convaincre ou pas, moi ça m'est égal. Mais quand vous passerez devant Dieu, je pense que vous risquez de regretter d'avoir osé dire « j'ai pas le temps de faire ce que Dieu me demande ». Occupez-vous bien de votre famille, mais pas au détriment de l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont esclaves du confort. Je ne sais pas si vous appréciez le confort. Moi, j'aime le confort. Moi, quand j'arrive le matin, que c'est bien chauffé, ou l'été, quand c'est bien climatisé, je ne sais pas si vous aimez le confort. Est-ce que c'est bien le confort? Ben ouais, on va pas cracher dans la soupe. C'est une bénédiction du confort. Mais combien de chrétiens ne font plus l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont accaparés par le plaisir d'avoir du confort? Si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes aveugle. Vous ne vous rendez pas compte que l'ennemi a réussi à vous détourner de l'œuvre de Dieu parce que vous êtes pris par le confort. Certains ne pensent qu'à leur intérêt. Est-ce que c'est bien de s'occuper de ces petits oignons? Mais oui, c'est bien. Mais quand nos intérêts finissent par nous amener à ne plus nous occuper de l'œuvre de Dieu, il y a de l'aveuglement. Je vous le dis, c'est très 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 sérieux. Parce que quand même la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions sa volonté. Est-ce que c'est important pour vous connaître la volonté de Dieu? Il y a des chrétiens, vous leur demanderiez, sérieux, mais qu'est-ce que c'est pour toi la volonté de Dieu? Ça se résumerait à ce triste débat. La volonté de Dieu, c'est que j'aille à l'église le dimanche. La volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est savoir à quoi Dieu nous appelle. Et c'est pour cela que l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme elle le devrait. Car je crois que dans toutes les villes du monde entier, dans tous les villages, l'œuvre de Dieu doit se faire avec les chrétiens que Dieu a sauvés dans ces villes et dans ces villages. Et l'Église doit savoir ce qu'elle a à faire. Vous êtes d'accord? Si Jésus n'est que votre sauveur, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais si Jésus est votre Seigneur, vous avez besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu en ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes d'accord? Il vous faut me répondre, sinon je m'arrête et je m'en vais. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que Jésus n'est que votre Sauveur? Ou est-ce que Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur? Parce que si Jésus n'est que votre Sauveur, vous pouvez vous arranger, vous entretenez juste votre salut, c'est très 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 dangereux, mais en fait quand même ça peut passer, soyons honnêtes. Mais une église digne de ce nom est une église composée d'hommes et de femmes qui ont Jésus pour Sauveur et pour Seigneur et qui sont soucieux de savoir quelle est la volonté de Dieu. Nous avons entendu dans l'introduction de la Sainte Cène le début du sermon sur la montagne où Jésus stipule à 8 reprises, si je ne me trompe, « Heureux serez-vous si vous faites ceci, heureux serez-vous si vous avez le cœur sensible, etc. etc. » etc. On voit bien que Dieu veut que l'on soit heureux. Mais si nous continuons, je parle d'une manière générale, mais si nous vivons selon notre propre volonté, nous ne serons jamais heureux. Ça rejoint ce que j'ai dit mardi ou jeudi ou dimanche dernier, ce n'est pas possible. Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Beaucoup de chrétiens sont tristes, beaucoup de chrétiens sont toujours tristes. Ça peut arriver d'avoir 5 minutes de cafard, 5 minutes de tristesse. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est des combats, c'est des luttes. Mais des chrétiens ne sont pas heureux, parce que justement, ils ne cherchent que leur confort, ils ne cherchent que leur intérêt. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne se sont jamais préoccupés de savoir quelle était la volonté de Dieu à leur égard. Alors je sais bien que nous les pasteurs, nous pouvons parfois manquer d'onction, manquer d'inspiration, et que nous ne communiquons pas peut-être suffisamment la volonté de Dieu. J'en conviens. Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est capable quand même de montrer à chacun ce qu'il doit faire dans l'Église? Vous ne croyez pas? Moi je le crois mes frères et sœurs. N'allez pas nous imaginer. N'allons pas nous imaginer, mes frères et sœurs, qu'en suivant notre propre volonté, nous serons heureux. Je ne sais pas s'il me faut le répéter, je l'ai souligné dans mes notes. N'allons pas nous imaginer qu'en faisant ce que nous voulons, nous serons heureux. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Je ne sais pas si vous êtes heureux, je ne sais pas. Je ne parle pas de la joie du salut, je parle de la joie de vivre. Et c'est vrai que c'est un fardeau. C'est un fardeau pour moi de voir tant de chrétiens qui n'ont pas compris encore au bout de 5 ans, 15 ans de conversion, qu'on ne peut pas être heureux en faisant sa propre volonté. La volonté de Dieu ne peut que vous rendre heureux, oui ou non? C'est évident. Quand je le dis, bien sûr, au bout d'un quart d'heure de prédication, c'est évident. Mais combien de chrétiens ont dans leur cœur une lumière qui n'est que ténèbres? Parce qu'en vérité, ils pensent qu'à leur famille, qu'à leur intérêt, qu'à leur avantage. Si vous en êtes là, repentez-vous. Moi, je suis là pour vous aider. Nous devons apprendre à marcher selon la volonté de Dieu. Le bonheur d'obéir au Seigneur. Quelle grâce! J'en ai parlé dans le repos, combien de gens aiment Dieu, obéissent à Dieu, et pourtant ne lui font pas confiance. Vous voyez, ce sont des choses qui paraissent complètement paradoxales, et pourtant c'est la vérité. Il y a des gens qui ne font jamais confiance à Dieu. Comment voulez-vous qu'ils soient heureux? Il faut en parler de ces choses-là. Les incroyants, vous aimez les incroyants? Est-ce que vous les aimez les pécheurs? C'est important. Vous savez que cette semaine, une dame qui a été touchée lors d'un enterrement, une inconvertie, qui a été touchée lors d'un enterrement, m'a téléphoné pour faire l'enterrement de sa maman. Ce que nous avons fait dans une maison de retraite, ça correspondait à la famille Aguila. Et la directrice m'a demandé un entretien pour que lorsqu'il y a des services d'inhumation, je puisse aller les faire. Est-ce que vous croyez que c'est bien? Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu. Vous avez entendu dernièrement mon cœur qui s'exprimait de pouvoir aller dans ces maisons de repos, de retraite, etc., pour pouvoir aider ces gens en fin de vie. Moi, je dis que c'est conduit par Dieu. Mais les incroyants, ils ont besoin de voir, ils n'ont pas besoin de voir que nous avons changé de religion. Ils n'en ont rien à faire, que vous soyez baptiste et que vous êtes devenu pentecôtiste. Les incroyants n'ont pas besoin de voir que nous avons changé de religion. Ils ont besoin que nous sommes heureux. Ils ont besoin de voir que nous sommes heureux parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est ça que les gens du dehors ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir que l'on est heureux. Cette semaine, une inconvertie m'a appelé. Mais Dieu permet ces choses, pas pour que je critique, pour que je comprenne. Cette semaine, une jeune fille nous appelait à moi et à mon épouse pour nous dire que sa mère, chrétienne, rendait un très mauvais témoignage. Pourquoi on l'a su ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Les incroyants, ils ont besoin de voir des chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu. Épreuve, pas épreuve, bénédiction, de toute façon, on a des tribulations, etc., etc. Vous vous rappelez, par exemple, c'est bien de le dire, par exemple, comment Saul de Tarse, qui respirait, vous vous rappelez ce qu'il respirait ? Le meurtre. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous le décrit. Comment Saul de Tarse, respirant le meurtre et la menace, a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Cet homme, religieux, pensant même travailler pour Dieu, vous voyez, comme quoi on peut se tromper. Je pense que la lumière qui était en lui était vraiment ténèbre, vous voyez. Mais quand il a été touché par Dieu, vous vous rappelez la question qu'il a posée à Jésus ? Vous vous rappelez la première phrase qu'il a dite à Jésus ? Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Non ? Madame Bourdelle, c'est vous qui me contrariez ? Mais oui, c'est bien ça. Saul de Tarse n'a pas dit « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Saul de Tarse a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Mais si ça vous fait sourire, ne riez pas trop vite, parce que beaucoup de chrétiens, quand ils découvrent la grâce de Dieu, aujourd'hui, s'interrogent sur ce que Dieu pourrait faire pour eux. Ne vous inquiétez pas, si Dieu devient votre Père, il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas, si vous le connaissez, vous savez que je n'exagère pas. Si Dieu est devenu votre Père, vous savez qu'il prendra soin de vous. Ça ne peut pas naître autrement. Ça, c'est affaire classée. Mais nous devrions par contre classer l'autre. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous dites à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que vous le dites à Jésus ? Par exemple, il y a une sœur dans l'église, c'est un exemple, mais c'est concret. Il y a une sœur dans l'église, je crois qu'elle s'appelle Madame Thauvin, qui est très 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 âgée, qui est dans une maison de retraite, qui, si j'ai bien compris, ne trouve personne le dimanche après-midi pour l'amener à l'église. C'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que c'est à moi de demander aux stagiaires, aller chercher tout le temps les personnes âgées ? Je ne crois pas. Je crois que certains peuvent le faire. Il doit y avoir quelqu'un dans l'église qui n'obéit pas. Est-ce que j'exagère ? Quelqu'un qui a un véhicule, ben peut-être que le dimanche après-midi, il est à vous. Les journées à qui elles sont en fait ? C'est au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Moi, il y a des cantiques, je ne veux pas qu'on les chante. Tellement ils sont forts dans l'expression de notre consécration. Je ne veux pas les chanter. Parce que ça fait de nous des menteurs. Mais moi, je suis sûr que si Madame Thauvin, cette pauvre mémé, qui a 85 ans, qui aimerait venir le dimanche après-midi, elle ne vient pas, quelqu'un s'entendra au ciel dire... c'était toi qui devais aller la chercher. Moi, je ne peux pas en ce moment. Mais je sais que ce n'est pas quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais il y a quelqu'un dans l'église qui devrait le faire. Peut-être que la lumière qui est en vous est ténèbre, vous n'y pensez même pas. Peut-être que c'est pour vous alors que vous êtes en train de dire, tiens, ça doit être pour quelqu'un. Mais c'est peut-être pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Car moi, je crois que le dimanche, au moins, ça doit être le jour du Seigneur. Et que ça doit être une grâce d'aller pouvoir chercher une grand-mère, même si je dois faire un crochet. Parce que je suis capable de faire un crochet pour aller acheter un sac en solde. Oui ou non ? Je ne suis pas capable de faire un crochet parce que je cherche mes propres intérêts. Et quand Jésus dit, c'est le premier sermon, c'est pas pour les spécialistes. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres ? C'est des choses qu'il faut réfléchir. C'est ça le concret dans une église. Un chrétien doit connaître la pensée divine. Il ne doit pas connaître la parole de Dieu. Quand Jésus a dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures. Écoutez, s'il y a bien des gens qui connaissaient les Écritures, c'était bien les pharisiens et les Sadducéens. Mais ils ne les connaissaient pas vraiment. La lumière qui était en eux était ténèbre. Vous êtes son enfant ? Est-ce que vous êtes son enfant ? Est-ce que vous pouvez vous dire, est-ce que ce matin, chacun d'entre nous, pouvons dire, oui, mon père, c'est Dieu ? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui peuvent dire, mon père, c'est Dieu ? Donc, si vous êtes son enfant, Dieu va vous aider. Oui ou non ? Est-ce que vous croyez que Dieu est votre aide ? Est-ce que c'est écrit ? Le Seigneur a dit, je suis votre aide. Est-ce que c'est écrit ? Oui, c'est écrit. Donc, il va nous aider. Il vous aidera. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas trop où nous en sommes. On a tous des épreuves, des bénédictions, des difficultés, tous, que personne ne pense qu'il est que lui dans l'épreuve. Dieu trouvera, je cherchais le mot, trouvera tous les moyens pour vous aider. Vous demanderez à Jonas et vous verrez si Dieu s'y entend pour amener quelqu'un dans sa volonté. Est-ce que Dieu trouvera les moyens? Bon, si on pouvait s'éviter certaines choses, ça serait quand même bien. Souvent, on ne comprend qu'au travers de tempêtes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jonas, s'il était là ce matin, je lui demanderais de témoigner. Mais je pense qu'il doit avoir disparu. Le repos doit nous amener à savoir certaines choses, à vivre certaines choses. Le repos, un chrétien qui est dans le repos, il ne peut que communiquer la paix, oui ou non? Même s'il est dans l'épreuve. J'y reviens parce que beaucoup de chrétiens, dès qu'ils sont dans l'épreuve, paf, ils perdent la paix. Est-ce qu'on peut avoir la paix dans l'épreuve? Est-ce qu'on peut avoir la paix? Est-ce qu'on peut être dans la misère même quand on est béni? Mais bien sûr, etc., etc. Un chrétien, il doit communiquer quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Alors, est-ce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est une question sérieuse? On est là, une partie de l'Église est représentée, l'autre partie sera là cet après-midi, mais c'est une question qui va nécessiter de l'engagement, des réactions, vous comprenez bien, c'est pas théologique, c'est pas en théorie. Je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu? Parce que on ne peut pas répondre à la légère, bien sûr qu'on peut répondre vite fait, parce que ben oui, c'est intéressant. Mais ça veut dire que le Seigneur va peut-être changer mon emploi du temps. Oui ou non? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, mais oui, ce que tu veux, Seigneur, est-ce que nous sommes prêts? Il y a du temps de Jésus, des hommes qui se sont approchés de lui, des gens certainement bien disposés, qui ont posé la question au Seigneur, c'est dans Jean 6, 28, ne le cherchez pas, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'était une bonne question? Oui, c'était une bonne question. Ils avaient le souci, il fallait que le Seigneur leur montre ce qu'ils devaient faire. Le problème, ce n'était pas de faire, c'était de savoir ce qu'ils devaient faire. Parce que l'homme, bien sûr, se croit toujours capable de faire l'œuvre de Dieu. Vous connaissez la réponse du Seigneur Jésus. Certainement, vous avez lu l'évangile de Jean. Jésus ajoute, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus ne dit pas à ces gens de faire quelque chose. Le Seigneur leur demande un état de cœur. C'est pour ça que je vous ai dit que être un serviteur, ça veut rien dire. Je sers dans tel service, je sers dans tel domaine, je sers dans la prédication, je sers dans la musique. C'est plutôt, est-ce que j'ai un cœur de serviteur? C'est sûr que c'est autre chose. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ça exprime, une fois de plus, la confiance dans nos forces. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, je peux poser la question. Qu'est-ce que je dois faire dans l'Église? Est-ce que c'est une bonne question? Ben oui. Ça, en vérité, si on étudie un peu, ça veut dire, tiens, M. Gou, il se sent capable de faire quelque chose. Bon, c'est pas mesquin. Mais Jésus ne dit pas, tu vas faire ça. L'œuvre de Dieu, c'est que vous fassiez ci, que vous fassiez ça. Jésus dit bien, écoutez, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Pourquoi? Écoutez bien, c'est la clé du message, croire. C'est recevoir. Si nous avions le temps, nous prendrons des textes dans la Bible où c'est clair, je prends juste le baptême sur le Saint-Esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela de ceux qui devaient recevoir. Donc croire dans la Bible, on peut prendre plein d'exemples, c'est intéressant de le faire avec une concordance. Croire, c'est recevoir. Donc, mes frères et sœurs, avant de nous amener dans une espèce de programme où chacun va faire quelque chose pour faire quelque chose, ce qui serait quand même bien aussi, parce que Dieu fait grâce aussi à Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance, mais mes frères et sœurs, avant que chacun nous embarquions dans un service pour nous embarquer dans un service, c'est important de comprendre ce que Dieu veut que je reçoive. Moi, je vous assure que mon AVC, je n'y reviens pas dessus, mais c'est parce que j'étais en train de m'éparpiller, parce que j'ai tellement de choses à faire, mais le Seigneur m'a arrêté pour que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Bon, j'ai compris, c'est bien. Mais chacun d'entre nous devons avoir le souci, parce que sinon c'est un culte de religiosité, pas plus, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bien sûr que nous sommes capables de faire, si je demande à Jérémie, à Monsieur de Dieu, à Béatrice, faites ceci, faites cela, je sais très bien que par leur notion, que par leur formation, par leur vie, ils sont capables de faire certaines choses. Oui ou non? Bien sûr. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pour ça que Jésus nous a laissé l'histoire de Marthe et de Marie, pour nous enseigner cette vérité. Nous voyons, si on prend cette étude, c'est très intéressant. Que fait Marthe? Qu'est en train de faire Marie? Vous le savez, Marthe est occupée à préparer le repas pour au moins 13 personnes. Si ça commence, c'est énorme. Marie, elle est assise au pied du Seigneur. Bon, Marthe était tellement sûre de son coup qu'elle se permet de faire un reproche à sa sœur et à Jésus. Quand on se permet de faire des reproches à Jésus, bon, c'est qu'on est, on n'est pas bien intentionné, c'est sûr, mais c'est qu'on est sûr d'avoir raison. Ça te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Ça te fait rien. C'est-à-dire, tu aurais pu te rendre compte que je fais le boulot toute seule. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en vérité? Une était très active et l'autre était, entre guillemets, passive. Mais elle n'est pas passive, elle est en train d'écouter. Elle est en communion avec le Seigneur. Elle est en train d'écouter, elle est en train de recevoir. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ou vous écoutez juste une prédication parce que je vais à l'église, donne Dieu de mon côté. Alors là, bien sûr, vous êtes dans la religiosité. Ou alors vous êtes dans la présence de Dieu et vous dites, non, 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 j'écoute parce que je veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que c'est ça, mes frères et sœurs? Je suis en train de m'asseoir, je suis là, c'est bien sûr, c'est le pasteur qui prêche, mais est-ce que je veux absolument recevoir quelque chose de la part du Seigneur? N'oublions pas ce que Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc Dieu, dans sa souveraineté, va utiliser les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, etc., les chrétiens, pour que la parole de Dieu soit esprit et vie. À ce moment-là, quand on comprend bien l'histoire, puisque Jésus va mettre en avant le comportement de Marie, on comprend, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Marie, à ce moment-là, était un vase. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est l'objet de son travail, j'allais dire l'objet de son amour. Ben oui, on peut le dire. Elle est l'objet de son amour, elle est l'objet de son travail. Parce que quand on est à l'écoute du Seigneur, on reçoit également son amour. Et croyez-moi, dans les temps qui sont, moi je trouve que c'est bien de recevoir l'amour du Seigneur pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Oui, elle est l'objet de son travail, elle est l'objet de son amour. Nous sommes son ouvrage. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Nous, on peut articuler, et j'aurais pu, voyez, je vous donne un exemple. J'aurais pu prendre une prédication, parce que je connais la Bible. J'aurais pu prendre une question, un verset biblique. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que c'est vrai que nous sommes ouvriers avec Dieu? Oui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors ça, on peut le partager. Et que de textes nous indiquent que nous devons être ouvriers avec Dieu. Mais je suis désolé. Avant d'être ouvriers avec Dieu, nous devons être son ouvrage. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne font plus rien. Parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu ne demandait pas. Je l'ai souvent dit, c'est pas parce que vous êtes comptable que vous allez être le prochain trésorier de l'Église. Vous êtes comptable, peut-être que Dieu vous appellera à la prédication. Moi, je suis sûr que dans le ciel, on va avoir de ces situations phénoménales. Où des gens vont dire au Seigneur, mais tu vois, j'ai fait ça, mais Dieu va dire, mais je ne t'ai jamais demandé. Dans le ciel, on va avoir de ces situations carambolesques. C'est quand même dommage que de le découvrir qu'au ciel. Pourquoi tant de chrétiens se sont découragés? Je vous ai parlé tout à l'heure de ce livre-là, les frères dont j'espère vous allez devenir des évêques. Vous vous rendez compte, si je n'avais pas lu ce livre, j'étais tellement accaparé. J'étais soumis. Et il faut être soumis. Et ce bouquin, il m'est tombé du ciel, je suis sûr. Je ne serai plus dans le ministère parce que j'étais fatigué. Quand on est fatigué, souvent ça va vite avec l'énervement et tout le reste. Et heureusement que ce bouquin, Dieu me l'a envoyé. Vous rendez compte? Je ne serai plus dans le ministère. Je vous assure que c'est vrai. Il fallait que je m'arrête. Il fallait que je m'arrête pour recevoir tout à nouveau la pensée du Seigneur. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit à Marthe, « Mais Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, mais Marie a choisi la meilleure part. » On choisit la meilleure part quand on arrive à savoir ce qu'il faut faire. Peut-être c'est une chose toute simple. Peut-être que c'est d'aller nettoyer. Vous voyez, il y a deux fuites. Un frère me disait, « T'as vu, il y a deux fuites. » Moi, ça m'a quand même peiné ce matin, quand j'ai entendu que cette semaine, c'était M. Jeannezin, qui quand même vieillit, qui a une jambe, il va être opéré la semaine prochaine, que c'est M. De Dieu, qui approche des 80 ans, qui était sur le toit, en train d'enlever les feuilles, dans le genou. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit leur place. C'est tout à leur honneur, mais je crois que des frères, des jeunes frères, devraient aller les trouver et dire, écoutez, chaque année, est-ce que deux fois par an, il faut monter sur les chenaux pour enlever les feuilles? Ben oui. Je ne dis pas ça pour mettre un pavé dans la mare. Écoutez, vous me connaissez. Mais si vous vous mettez à être l'ouvrage du Seigneur, vous aurez à cœur certaines choses. Madame Thauvin, elle va voir quelqu'un. Il y a quelqu'un, ne dites pas, mais il n'y a personne. Comme un frère me disait dernièrement, je ne comprends pas, ce pasteur, il n'est jamais visité. C'est le pasteur qui disait ça, de notre pasteur. J'ai dit, mais vous habitez à combien de ce pasteur? Ben, à quelques minutes. Ben, c'est peut-être à vous d'y aller. Ben, je ne sais pas. Il y a des trucs, il y a des, oh, monsieur Gros, personne ne s'occupe de cette, mamie, il n'y a que moi qui m'en occupe. Ben, c'est peut-être suffisant. C'est pas la peine qu'on s'en occupe à 300. Vous allez, mais voyez un petit peu, si Dieu vous met à cœur quelque chose, faites-le. Mais ne reprochez pas aux autres de ne pas le faire, puisque c'est Dieu qui vous a demandé de vous en occuper. Commençons à faire les choses avec énormément de bon sens. Mais le problème des autres, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas devenir indifférent, puisque, parce qu'on peut utiliser ce verset « Que t'importe les autres, toi, suis-moi » pour jouer l'indifférence, ce qui n'est pas du tout enseigné. Mais quand même, mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons ce matin dire, honnêtement, si ce n'est pas possible, bien, soyons honnêtes, Dieu va nous aider, j'ai choisi la bonne part, la seule chose nécessaire. Vous avez entendu? Une seule chose est nécessaire. Beaucoup de chrétiens, mais moi je le vois, alors ils viennent nous trouver après. Monsieur Gros, Dieu m'a dit que j'allais me marier avec cette jeune fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, si Dieu vous l'a dit... Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Les gens nous mettent devant le fait accompli. Nous, on leur dit, peut-être que moi, je n'aurais pas été d'accord encore. Et puis après, ouais, monsieur Gau, cette fille, elle n'était pas la volonté de Dieu, mais vous m'avez dit que si. Voyez un petit peu comment on peut être tordu. Les gens, ils ne viennent pas nous trouver pour avoir un conseil. Ils viennent nous trouver pour nous mettre devant un fait. Alors, mais nous, on est, je répète quand même qu'on est dans une église, on n'est pas dans une secte. Et que nous, on donne des conseils, on n'oblige pas les gens à faire ceci ou faire cela. Jésus n'a jamais obligé quelqu'un à faire quelque chose. Mais quand même, ça vous montre l'état d'esprit dans lequel certaines personnes s'embourbent dans des problèmes et qu'ils utilisent le nom du Seigneur. C'est comme tous ces gars qui ont été voir des filles. Dieu m'a montré que j'allais me marier avec toi. Alors, il y a des filles qui l'ont fait. Le résultat, vous savez comment c'est. C'est très sérieux, c'est très joyeux, mais c'est très sérieux. Est-ce que, je le répète, après tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est important pour vous de faire l'œuvre de Dieu? Si c'est important, vous allez, vous aussi, choisir la meilleure part. Vous allez commencer à vous asseoir au pied du Seigneur. Et ne me dites pas, j'ai pas le temps. Parce que si vous me le dites, je le répète, si vous me le dites à moi, c'est pas grave. Moi je vous dirais, écoute, tu n'as pas le temps. C'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Parce qu'on a le temps de faire ce que Dieu nous demande, je l'ai dit 50 fois. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est bien de voir le témoignage de Marie. Quoique certains devraient aussi ressembler à Marthe. Mais avant, il faut être une Marie. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle est assise. Quelle image extraordinaire du repos et de la communion avec Dieu. Vous êtes assis. Est-ce que c'est bien d'être assis? Moi, je suis debout. Voilà. Et imaginez-vous toute la prédication debout. Mais vous êtes d'accord que c'est quand même bien d'être assis. D'accord? On changera la semaine prochaine, vous resterez debout, et moi je resterai assis. Pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Voilà. La meilleure façon de grandir avec Dieu, c'est de s'asseoir et d'écouter. Vous voulez grandir avec Dieu? Vous savez, est-ce que vous aimez vous approcher de Dieu? Je ne dis pas est-ce que vous aimez les bénédictions, ça je sais que vous aimez la bénédiction. Est-ce que vous aimez vous approcher de Dieu? Est-ce que vous aimez sa présence? Je vous le dis, c'est le seul moyen de grandir. Ce n'est pas en servant qu'on grandit. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que je fais un truc, un autre, une chose et un service. On peut dire, déjà, on voit des gens zélés, on apprend quoi? Qu'ils ont rétrogradé. On ne grandit pas par le service, on grandit par la communion. D'ailleurs, je vous lis ce verset, 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous pourrez prendre ce verset, 2 Corinthiens 3:18. Nous sommes transformés dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, elle a choisi la bonne part. J'ai envie de dire, mais pourquoi tant et tant de chrétiens ne grandissent pas avec Dieu? Elle est assise au pied du Seigneur, ça représente la communion, ça représente l'humilité. Car c'est une attitude d'humilité que d'aimer se retrouver seul dans la présence de Dieu. Vous le savez, Dieu fait grâce aux humbles. C'est de l'orgueil que de dire, mais moi j'ai pas le temps, et moi j'ai ceci à faire, et moi j'ai cela, mais monsieur Gros, mais moi je suis un homme d'affaires, j'ai pas le temps de prier. Vous direz ça au Seigneur. Que vous soyez une femme de ménage, que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre, vous avez le temps de faire ce que Dieu vous demande. Quelle grâce de s'approcher de Dieu, quelle grâce. Si vous avez expérimenté la grâce, la miséricorde, le pardon, l'amour de Dieu, mais vous savez très bien que c'est une chose dont on ne peut pas se passer. Si vous arrivez à ne pas prier, ce n'est pas compliqué. C'est que vous n'avez jamais expérimenté cette douceur, cette présence, cette joie. Franchement, quand on a goûté certaines choses, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de les revivre parce que vous les avez goûtées? Vous n'avez jamais mangé dans un super restaurant, un truc super bon? Ça vous est déjà arrivé auprès d'un feu de cheminée? Vous avez envie de revivre ce truc? Ça vous est jamais arrivé? Pourquoi? Mais parce que vous l'avez vécu! Eh bien, si vous n'avez... Moi, je vous le dis pour vous aider, je ne vous dis pas ça pour vous accabler. Si vous n'avez jamais vécu cette présence, cette faveur, cette tendresse, cette miséricorde, eh bien, c'est parce que vous ne vous êtes jamais assis dans la présence du Seigneur. Marie, elle est occupée, il y a plein de choses à faire. Marthe, elle est occupée, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Franchement, est-ce que dans notre ville de Toulouse, ou dans la ville où vous habitez, il y a plein de choses à faire? Est-ce que vous pouvez tout faire? Mais non, ce n'est pas possible. Mais le fait d'être assis nous indique qu'au-delà de tout ce qu'il y a à faire, pourtant, elle recevait Jésus. C'était quand même quelque chose, recevoir Jésus dans sa maison. Mais au-delà d'un service pour Jésus, il y a cette grâce, cette tranquillité. C'est dans la tranquillité que sera votre repos. La tranquillité, c'est bien peut-être les tranquillisants, je ne sais rien peut-être que vous prenez tranquillisant, mais je crois que Dieu peut nous donner de goûter la tranquillité. Béni soit Dieu pour les médicaments, oui ou non? Mais est-ce que Dieu peut vous tranquilliser? Oui, Dieu peut vous tranquilliser. Quelle grâce! Qui est capable de rester tranquille? Ne répondez pas, mais qui, répondez-vous, qui dans ce lieu est capable de rester seul, tranquille, devant Dieu. J'ai lu dernièrement un bouquin, vous voyez là aussi, un bouquin, où le pasteur, si vous voulez vous tenir devant Dieu, prenez un Walkman, un disque, un CD chrétien, écoutez de la musique. Bon, j'écoute de la musique en venant, écoutez un CD chrétien, de belles, belles, belles chansons. Mais franchement, moi je crois que s'il y a bien un moment où on doit être tranquille dans le silence, c'est pour entendre la pensée de Dieu. Et c'est le diable qui fera tout pour que notre esprit soit continuellement occupé par nos yeux, par nos oreilles. Il va essayer de nous gaver, excusez-moi l'expression, l'esprit, pour que nous n'ayons plus soif d'entendre parler de Dieu. Une personne agitée ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Écoutez, c'est une expérience que vous pouvez découvrir. Vous retrouvez seul dans la présence de Dieu le temps qu'il faut pour recevoir. Moi, je le dis parce que c'est biblique. Une personne agitée ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Si Jésus a dit « Marie a choisi la bonne part », vous comprenez bien que quand on est assis dans l'humilité, dans l'écoute, dans la tranquillité, on ne peut que recevoir ce que Dieu va nous demander de faire. Si nous voulons recevoir, il faut apprendre à demeurer tranquille. Parce que quand on est assis, on entend la parole du Seigneur. Est-ce que c'est bien d'entendre la parole du Seigneur? Moi, ce matin, je lisais. Pourtant, ma prédication était prête. Je me suis levé de bonne heure. Je ne vous dis pas ça parce que je suis pasteur, mais parce que je suis chrétien. Je me suis levé de bonne heure et j'étais envahi par un verset de la Bible qui me nourrit depuis une semaine. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis envahi par ce verset. C'est comme si je le voyais. Je suis le Dieu Tout-Puissant. On a chanté ce matin que Dieu était Tout-Puissant. Ça m'a quand même fortifié. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Est-ce que vous le croyez? Mais vraiment, est-ce que vous le croyez? Vous voyez, la prédication pourrait durer une seconde. Dieu est tout puissant. Vous voyez, est-ce que ça vous fait du bien que je vous le dise? Marie, je ne sais pas combien de temps elle est restée. Je sais qu'après elle a dû aider Marie. Marthe, ce n'est pas possible autrement. Mais elle écoutait la parole du Seigneur. Il y a une parole en général. Vous lisez un psaume, Vous lisez un psaume en général, c'est bien. Mais il y a une parole pour vous. Il y a un verset pour vous. Et Dieu veut vous parler d'une façon personnelle. Qu'avez-vous entendu dernièrement de la part de Dieu ? Depuis combien de temps Dieu vous a-t-il parlé ou pas parlé ? Depuis combien de temps une parole de Dieu ne vous a pas touché ? Quelle est la parole qui a fait du bien à votre âme ? Moi, il y a des gens qui me disent, moi, la Bible, moi, je ne la lis plus, j'y comprends pas, j'y comprends rien. Vous croyez que c'est bien, ça ? Vous croyez que c'est aimer Dieu ? Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur, pour nous donner sa parole ? Il y a des gens, ils écrivent plein de bouquins pour gagner de l'argent. Mais vous savez ce que Jésus a accompli sur la croix pour qu'on ait sa parole ? Est-ce qu'il y a une parole qui vous a réconforté, consolé, fortifié ? Et je voudrais terminer avec une pensée. Écoutez bien. Dans l'Église, parfois, on insiste pour entretenir une atmosphère spirituelle. Est-ce que c'est bien d'entretenir une atmosphère spirituelle ? Le silence, le recueillement ? Moi, je crois que oui. Vous savez, une atmosphère charnelle ne nous aide pas à ce que Dieu nous parle. Il y a des églises aujourd'hui, je le sais parce qu'on me l'a dit, où tout est fait dans le bruit. Tout est fait dans le bruit. Même la Sainte-Seine. Même la Sainte-Seine est faite avec des cantiques et du bruit. Moi, je crois que pour que Dieu nous parle, on doit développer, le mot n'est pas correct, une atmosphère spirituelle. Dans le bruit, dans la plaisanterie, dans l'amusement, dans la légèreté, on n'arrivera pas à de la profondeur. Bon, je crois qu'il y a un temps pour rire, mais vous savez le rire. La joie, parlons de la joie, je l'ai déjà dit. La joie, elle ne vient pas par le rire. Lisez les proverbes, vous verrez si c'est vrai. La joie, elle vient par l'onction. Vous avez envie de joie ? Vous aimez la joie ? Elle vient par l'onction. Vous le savez, même un cœur joyeux peut cacher la tristesse. Ou c'est écrit ou c'est pas écrit ? Mais la vraie joie, elle vient par l'onction. Et les choses spirituelles doivent devenir réelles, aussi réelles que les choses physiques. Un micro, c'est... Vous le voyez ? Vous voyez un micro ? Voilà, un micro, c'est comme ça. Vous êtes d'accord que les micros, ça existe ? Est-ce que vous croyez que les micros, ça existe ? Pourquoi ? Pourquoi vous croyez que les micros, ça existe ? Non, mais vous allez comprendre. Hein ? Parce que vous le voyez. Mais quand les choses spirituelles deviennent non pas théologiques, philosophiques, théoriques, quand les choses spirituelles sont profondes, elles deviennent aussi concrètes que les choses visibles. Et c'est ça qu'on a besoin, que les choses spirituelles deviennent vraiment concrètes. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Ben oui, c'est écrit. Quand dans une ambiance, je crois que c'est Wajmani qui dit que dans une ambiance charnelle, dans une ambiance bruyante, c'est comme si nous nous attendions à ce qu'un poussin éclose dans un congélateur. Moi, j'ai trouvé l'image formidable. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que vous pensez qu'un poussin peut naître dans un congélateur ? Eh bien, c'est exactement pareil. Lorsque les choses sont superficielles, légères, il n'y a rien qui naît dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut de la profondeur, qu'il faut préparer les cultes, qu'il faut se préparer. Qu'il faut dire, mais Seigneur, c'est vrai, il faut que je réapprenne à me tenir devant toi. Si la lumière qui est en toi est ténèbre. Et si vous ne vous tenez pas devant Dieu comme Dieu le voudrait... Je sais qu'à moi, il me faut passer des heures devant Dieu, mais ça, ce n'est pas ce que Dieu vous demande à vous. Mais Dieu peut vous demander une petite demi-heure. Est-ce que Dieu peut demander une demi-heure à chacun ? Cette demi-heure-là, faites-la. Peut-être que c'est qu'un quart d'heure. Je ne le sais pas. Ce n'est pas à moi de vous dire, passez une demi-heure, monsieur un tel, passez 20 minutes. Je crois que chacun peut savoir quand même le temps qu'il doit passer devant Dieu. Pourquoi ? Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que ce que vous avez besoin, ce n'est pas d'un enseignement formidable. Des gens, des fois, me disent, oh, monsieur Go, c'était formidable ce que vous avez dit. Quels sont les progrès que vous avez faits depuis ? Aucun. Donc, on n'a pas besoin d'un enseignement formidable. On a besoin de la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Oh, monsieur Go, votre enseignement, ça m'a fait un bien fou. Mais il faut savoir si on fait des progrès avec le Seigneur. N'hésitons pas à demander au Seigneur qu'il nous aide. Il va vous aider. Si vous le connaissez, vous le savez. Mes frères et sœurs, je vois que le retour, on poursuivra ce sujet mardi. On poursuivra ce sujet, on poursuivra sur le repos, sur le service. Les frères, vous savez, les frères, c'est important. C'est important pour moi que des hommes se lèvent. Parce que vous savez, comme je l'ai dit dans les annonces, ça me brise le cœur de savoir qu'à la rentrée, des églises n'auront pas de pasteurs. Donc il faut que des hommes se lèvent. C'est peut-être ce que Dieu vous demande. Peut-être que vous parlez mal. Peut-être que vous vous exprimez mal. Et que vous dites, mais moi, je n'ai pas fait d'études. Vous savez, je le dis avec beaucoup de sérieux, moi, je me suis arrêté en quatrième.
Je me suis arrêté en quatrième et j'étais dernier de la classe. Et j'ai redoublé. Je sais ce que c'est la quatrième. Et je ne pouvais pas aller plus haut. Peut-être que quelqu'un se sent diminué parce qu'il n'a pas fait d'études. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Alors, tenez-vous devant le Seigneur. La meilleure part, c'est de dire « Oui, je suis un chef d'entreprise. Oui, je suis une femme de ménage. » Ce n'est pas important que vous soyez femme de ménage ou ministre ou docteur. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous fassiez ce que Dieu vous demande. Tout en étant femme de ménage ou tout en étant médecin. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu qui veut que l'Église soit édifiée, qui veut que des âmes soient sauvées. Vous supporteriez pas que je ne me prépare pas devant Dieu. Vous accepteriez que j'arrive en vous disant « Ah ben, hier soir j'ai regardé la télé, ben, c'était super intéressant, je ne me suis pas préparé. » Mais je sais qu'on s'aime bien dans l'Église, on est tous gentils, c'est pas grave, on va prendre un texte et on va le lire. Qu'est-ce que vous diriez? Sérieusement, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Eliezer. Qu'est-ce que vous... Oh, c'est pas grave, on est gentil, on s'aime. Et mais l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas avec la gentillesse. C'est bien d'être gentil. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens spirituels, dans une atmosphère spirituelle. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens qui font ce que Dieu leur demande. Donc, croire, je le répète, c'est recevoir. Mes frères et sœurs, nous ne soupçonnons pas le nombre d'âmes que nous gagnerions si nous nous mettions tous à recevoir de la part du Seigneur. Et non pas foncer tête baissée dans une activité pour foncer tête baissée dans un service. Alors, mes frères... Je m'en appelle aux frères parce que je sais qu'il me faudra des frères pour prêcher l'évangile dans cette région, je le sais. Mais il faut que chacun, il ne faut pas que Madame Thauvin puisse en 2013 me dire « Monsieur Go, personne n'est venu me chercher ». Demandez à Dieu que la lumière en nous ne soit pas ténèbre, qu'il y ait vraiment la lumière du Seigneur. Vous êtes d'accord mes frères et sœurs? C'est important que nous développions ça. C'est le seul moyen d'être heureux. C'est le seul moyen de gagner des âmes. C'est le seul moyen de voir l'œuvre de Dieu prospérer. Fermons les yeux quelques instants. On va demander au Seigneur, je vais demander à Monsieur Galifot, s'il vous plaît, de venir à ma place et de terminer en priant. Je voudrais qu'on prie, mais que ces choses soient saines, que ces choses soient vraies, que ces choses soient importantes. Vous qui vous occupez de vos intérêts, de votre famille, il est où, Monsieur Galifot? Il n'est pas là, Monsieur Galifot? Tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez recevoir de la part du Seigneur? Alors, tenez-vous devant Dieu. Tenez-vous le temps que lui vous demandera. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Prions avec M. Galifot, s'il vous plaît. C'est tellement important. Vous voyez, M. Galifot, il est à la retraite. Il pourrait s'occuper de son jardin. Il s'occupe, vous voyez, ce matin, cette jeune fille qui est venue de si loin, de si loin, de si loin des ténèbres. Moi, je crois que cette petite, elle ira au ciel. Moi, je le crois. Pourquoi? Parce qu'un homme de 70 ans et plus. Eh ouais, tu fais vieux, d'ailleurs. Un homme de 70 ans. Mais c'est pas bien quand je vois M. Bordeneuve qui est, excusez-moi l'expression, qui est crevé, fatigué. Est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un se lève pour l'aider? Amen. Vous, les jeunes, vous devriez avoir honte de voir des aînés qui sont en train de s'épuiser. Alors, non, je dis que vous devriez avoir honte parce que la Bible dit « Ayez honte et rougissez ». Pas pour vous accabler, mais si chacun nous mettions à recevoir, nous gagnerions des âmes, nous ne nous en rendons même pas compte. Le nombre d'âmes que nous gagnerions. Alors apprenons à recevoir, comme Marthe, comme Marie, la pensée de Dieu. Car quand on sait ce que Marie a fait après, je vous assure, ça valait la peine. Que Dieu vous bénisse.